Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, bonjour. Ensemble avec les membres du directoire et du conseil de surveillance, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée générale annuelle de Solutions 30. Je remercie particulièrement les actionnaires qui ont fait le déplacement pour venir aujourd'hui et aussi ceux qui, nombreux, participent à distance et continuent à nous faire confiance. Merci beaucoup à toutes et à tous. À mes côtés sont présents Rita Rakib, qui représente APKF, réviseur d'entreprise agréée de Solutions 30, Monsieur Jean Médernac, qui est signataire de nos comptes, étant en déplacement professionnel, est connecté à distance et il nous écoute. Maître Pierre-Alexandre Deyer, avocat à la Cour et conseil du groupe. Nous avons également Alexander Sator, qui est président du conseil de surveillance. Jean-Paul Côté, membre du conseil de surveillance, qui en est le porte-parole. Je rappelle que tous les membres de notre conseil de surveillance sont indépendants. Nous avons également Katarzyna Kuzeska, qui est la directrice juridique du groupe, Amaury Boileau, notre directeur général finance, Nathalie Duchesne, directrice de la gestion des risques et conformité du groupe. La présente assemblée générale annuelle commence à 10h05. À mes côtés vont prendre place un scrutateur et un secrétaire, et à cet égard, je vous propose de nommer Katarzyna Kuzeska, notre directrice juridique, comme secrétaire, et maître Pierre-Alexandre Deguet, avocat à la Cour, comme scrutateur de l'Assemblée générale. Je passe donc la parole à Pierre-Alexandre Deguet concernant les formalités de participation à cette Assemblée générale.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je vous rappelle que, conformément à la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, il faut détenir au moins une action de Solution 30 et s'être conformé aux dispositions statutaires pour pouvoir régulièrement assister et participer à cette Assemblée générale. Compte tenu de la pandémie de Covid-19 et de la situation générale dans le monde, le directoire de la société, après 2 années consécutives de réunions sans présence physique, et tenant compte du fait que la pandémie semble diminuer d'intensité pour le moment, la société a pris des mesures de précaution pour protéger et limiter l'exposition de ses actionnaires et tous les participants usuels à une assemblée générale. Dans ce contexte, le directoire de la société a décidé qu'il était de nouveau temps de tenir l'assemblée générale en présentiel. Par ailleurs, le directeur de la société a également décidé que pour les actionnaires qui n'auraient pas la possibilité de venir en personne, cette Assemblée générale serait transmise en direct par vidéoconférence. Étant donné qu'une Assemblée générale est une réunion à caractère privé, je souhaite informer les journalistes, analystes et toutes autres personnes qui assistent à cette Assemblée générale qu'il n'est pas possible de faire un enregistrement audio et vidéo concernant le processus de vote. Solution 30 a pris des dispositions pour donner aux actionnaires la possibilité de voter par courrier, par procuration et par vote access. Les formalités correspondantes et la manière de procéder seront expliquées un peu plus tard au cours de cette Assemblée générale. Concernant les questions, comme détaillé avec précision dans l'avis de convocation, seuls les actionnaires présents en personne auront la possibilité de poser des questions en direct. Cependant, les actionnaires non présents physiquement ont été invités à l'avance à poser leurs questions dès que possible et en les faisant parvenir à la société au plus tard pour le 10 juin 2022. Toutes ces questions ont été réceptionnées, analysées, traitées. Certaines similaires, sinon identiques, ont été regroupées par thème, tandis que d'autres seront traitées individuellement. Dans tous les cas, il sera répondu de manière exhaustive lors d'une session de questions-réponses à toutes les questions. Quorum et majorité. Je vous rappelle que conformément à la loi sur les sociétés commerciales et plus précisément encore au statut de Solution 30, aucun quorum n'est requis pour une assemblée générale annuelle. En d'autres termes, les résolutions prévues à l'ordre du jour de cette assemblée générale seront adoptées à la majorité simple des voix qui auront été valablement exprimées. Les documents relatifs à la régularité de la convocation des actionnaires ont été déposés sur le bureau. Les documents et informations prévus par la loi et les statuts de la société ont été mis à disposition des actionnaires dans les conditions et les délais prévus par les statuts de la société et par la réglementation en vigueur pour les sociétés cotées. Donc, l'avis de convocation a été publié au recueil électronique des sociétés et associations Luxembourg le 17 mai, dans un journal du Luxembourg, le Tageblatt, le 17 mai, et sur le site internet de la société le 17 mai. Les convocations ont été communiquées aux actionnaires en nom par lettre missive le 17 mai 2022 également. Les publications requises par la loi, ainsi qu'une copie de la lettre adressée aux actionnaires en nom, ont été déposées auprès du bureau de l'Assemblée générale. les attestations de qualité détenteur à la date d'enregistrement, ainsi que les procurations et les formulaires de vote, sont également déposés auprès du bureau.
Alors, considérant ce qui vient d'être annoncé, je confirme à l'Assemblée générale, et l'Assemblée générale constate donc que les actionnaires de Solution 30 ont été valablement convoqués à l'Assemblée générale et que les convocations ont été publiées en application des règles. En conséquence, l'Assemblée générale régulièrement constituée peut valablement délibérer. Je donne la parole à Pierre-Alexandre Deguet pour lire les points à l'ordre du jour de la présente Assemblée générale.
Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous l'avez vu dans les constaté dans les avis de convocation, l'ordre du jour de l'Assemblée est donc le suivant. Le premier point, il y aura une présentation du rapport de gestion, du rapport de gestion consolidé du directoire de la société, du rapport du réviseur d'entreprise agréé sur les comptes annuels et les états financiers consolidés de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, ainsi que les observations du conseil de surveillance de la société. Deuxième point, approbation des comptes annuels de la société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021. Troisième point, approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021. Quatrième point à l'ordre du jour, affectation des résultats. Cinquième point à l'ordre du jour, décharge à accorder aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance. Sixième point, ratification de la cooptation de Mme Pascale Mourvillier en tant que nouveau membre du conseil de surveillance. Septième point, nomination d'un nouveau membre de conseil de surveillance. Huitième point, approbation du renouvellement du mandat de PKF Audit et Conseil SARL en tant que réviseur d'entreprise agréé jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022. Neuvième point, soumission de la politique de rémunération révisée pour avis consultatif. Dixième point, soumission du rapport de rémunération pour avis consultatif. Et enfin, le onzième et dernier point, l'approbation d'une rémunération extraordinaire supplémentaire à allouer aux membres du conseil de surveillance pour un montant total de 250 000 euros en raison de la charge de travail supplémentaire exceptionnelle effectuée en raison et dans le contexte des attaques boursières subies par la société.
Merci Pierre-Alexandre. Dans un premier temps, je vais vous rappeler en quelques mots qui est Solution 30 et revenir sur le bilan de l'année 2021. Amaury Boileau vous présentera ensuite les résultats de l'exercice 2021. Je ferai après un point sur les perspectives du groupe avant de passer la parole à Jean-Paul Côté qui vous parlera de la gouvernance. Nous traiterons ensuite les questions reçues en amont de cette Assemblée générale et les questions des actionnaires présents, puis nous procéderons au vote des résolutions. Depuis près de 20 ans, Solution 30 s'engage à rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre quotidien, grâce à un réseau de 15 000 techniciens qui réalisent chaque jour près de 70 000 interventions. Nos techniciens interviennent pour le compte de grands clients, opérateurs de télécommunications, énergéticiens, fabricants de matériel informatique, dont ils sont le visage. Notre cœur de métier est la réalisation de prestations techniques de proximité chez les particuliers ou les entreprises. Pour donner des exemples concrets, en France, Solution 30 connaît un très grand nombre d'abonnés fibres au réseau très haut débit du pays. En Belgique, Solution 30 installe 40% des compteurs communicants des Flandres, après avoir installé en France 25% des compteurs Linky. Solution 30 est un maillon indispensable de la transformation numérique et de la transition énergétique, ce qui nous permet d'afficher une croissance moyenne annuelle de près de 27% depuis 2007. Cette croissance, nous l'avons financée principalement sur fonds propres et le groupe a la particularité d'avoir une structure de bilan très saine avec un taux d'endettement très faible pour une valeur de croissance. Nous sommes positionnés dans 7 zones géographiques et intervenons dans 6 secteurs d'activité complémentaires. Ce positionnement est sur notre marché un facteur de différenciation fort. Sur chacun de ces territoires ou de ces secteurs, Nous allons chercher des marchés volumiques qui vont nous permettre, d'une part, de déployer notre organisation et densifier notre réseau de techniciens. Deuxièmement, d'automatiser beaucoup de tâches pour gagner en efficacité. Et troisièmement, de standardiser au maximum nos interventions. Ces trois piliers sont autant de leviers de rentabilité qui nous permettent, une fois la densité du réseau suffisante et la standardisation des process réalisés, de dégager des niveaux de marge opérationnels à deux chiffres. Grâce à ce modèle d'affaires, nous garantissons à nos clients des délais d'intervention rapides, une bonne qualité de service et la capacité à réaliser la même prestation partout en Europe. C'est là un de nos principaux atouts. 2001 a été une année très chargée pour Solution 30. Comme j'ai déjà pu le dire précédemment, en près de 20 ans, Solution 30 n'a jamais connu de conditions de marché aussi favorables. Jamais. La transformation digitale et le déploiement des réseaux télécoms, aujourd'hui plus performants, accélèrent dans les pays qui ont pris du retard dans ce secteur, c'est-à-dire partout où nous sommes implantés, sauf en France et en Espagne. La transition énergétique se déploie de plus en plus vite dans les pays européens, car les énergies renouvelables constituent un levier d'indépendance énergétique, stratégique pour les États de l'Europe occidentale. Sur ces facteurs structurels vient s'ajouter des flux d'investissements massifs liés au plan de relance européen post-Covid. À moyen terme, je suis donc très confiant sur les perspectives de notre groupe. Solution 30 est idéalement positionnée pour capter la croissance de ces marchés et sa structure financière solide lui permet de jouer un rôle de fédérateur sur des marchés qui restent très fragmentés. À court terme, au premier semestre 2022, dans la continuité du deuxième semestre 2021, nous observons des évolutions contraires entre le marché français qui est mature et les autres marchés qui sont en pleine expansion. En France, la construction du réseau FTTH touche à sa fin. Cette activité, qui va s'éteindre progressivement, n'est toutefois pas le cœur du métier de Solution 30. Elle ne représente que 8% du chiffre d'affaires du groupe en 2021. Les raccordements d'abonnés à la fibre ont atteint un plateau et sont en train de se stabiliser sur des niveaux élevés, compris entre 3 et 4 millions de raccordements par an. À ce rythme, il faudra encore une dizaine d'années pour raccorder tous les foyers français. Désormais, c'est le marché de la maintenance qui progresse au fil des années, qui prendra le relais. Dans le secteur de l'énergie, les déploiements des compteurs intelligents arrivent à leur fin et ce sont les marchés liés à la transition énergétique qui prennent le relais. La montée en puissance de ces relais est ralentie par les effets de Covid sur les chaînes d'approvisionnement et l'organisation des équipes. Mais in fine, le marché adressable pour Solution 30 est plus grand que celui des télécoms. À l'inverse, nous connaissons une très belle dynamique dans la plupart des autres pays européens, et notamment au Benelux, au Royaume-Uni, en Italie et en Pologne. Ces pays sont là où était la France en 2015, avant que le chiffre d'affaires de notre groupe ne soit multiplié par 6 en 5 ans. La plupart des marchés ont un potentiel de croissance important, mais à part le Benelux, ils n'ont pas encore atteint la taille critique, ce qui a un impact négatif temporaire sur nos marges. L'année 2021 a été marquée par la signature de nouveaux contrats majeurs en Italie, en France, au Benelux et en Espagne. Nous avons également renforcé notre position aux États-Unis. Pardon, au Royaume-Uni. Je fais ici une parenthèse pour répondre à une question récurrente de la part des actionnaires. Le groupe communique sur des contrats exclusivement avec l'accord de ses clients. Et il peut arriver que certains clients ne souhaitent pas que nous communiquions. Donc on ne peut pas communiquer sur tout. Les contrats qui apparaissent ici sont les contrats nouveaux qui reflètent de nouvelles sources de chiffre d'affaires. Ce diagramme n'intègre pas les renouvellements qui font partie de la vie quotidienne de Solution 30. Sur le plan commercial, l'année 2021 a donc été particulièrement dynamique. Et ce, alors que dans le même temps, nous avons dû nous battre contre la campagne de diffamation menée par des vendeurs à découvert, qui a un impact significatif sur le cours de l'action et sur nos actionnaires. Cette situation a d'ailleurs conduit nos précédents réviseurs d'entreprise à ne pas émettre d'opinion sur nos comptes. Cette crise est aujourd'hui derrière nous et de nouveaux réviseurs d'entreprise agréés ont certifié nos comptes 2021. Ces attaques ont coûté près d'un point de marge d'EBIT à Solution 30 en raison des dépenses engagées pour restaurer notre réputation et rassurer nos parties prenantes, et plus d'un milliard d'euros de capitalisation boursière, en plus du temps perdu par les équipes qui ont géré cette crise. Je vais maintenant passer la parole à Maury, qui va commenter les résultats de l'exercice 2021.
Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, bonjour. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires atteint 874 millions d'euros, en croissance de 6,7%. À périmètre constant, le chiffre d'affaires est en hausse de 3,6%, les activités de M&A ayant été réduites en 2020 et pendant la majeure partie de 2021. Nous avons repris les acquisitions en novembre 2021 en rachetant les actifs de la société Mono, afin de renforcer notre présence au Royaume-Uni et notre portefeuille de clients dans le domaine des réseaux de télécommunications mobiles. Par rapport à 2019, avant le Covid, notre chiffre d'affaires est en hausse de plus de 26%. Ce slide vous présente le cycle de vie de nos marchés. Il est essentiel pour bien comprendre la performance opérationnelle de Solution 30, son stade de développement et sa politique financière. Nous vous présentons ici les différentes phases d'un marché chez Solution 30 et nous avons positionné le statut de chacune de nos géographies et de chacun de nos secteurs d'activité dans le bas de la slide. Le rôle de Solution 30 est de déployer et d'assurer la maintenance de nouvelles technologies. Nous opérons donc souvent sur des marchés qui sont nouveaux pour nos clients. Ainsi, la première phase, parfois même avant de remporter un contrat, consiste à préparer notre organisation et à discuter avec le client des process qui seront mis en œuvre. La deuxième étape consiste à rechercher, à recruter et à former les techniciens qui réaliseront le travail sur le terrain, et parfois même à recruter et former les encadrants pour renforcer nos équipes. Durant cette phase, nous supportons les charges liées à ces recrutements sans encore percevoir le chiffre d'affaires correspondant. La rentabilité est donc mécaniquement pénalisée et la trésorerie dégagée par les activités plus matures est allouée au paiement de ces charges. La particularité des deuxième semestre 2021 et premier semestre 2022 est que nous sommes dans cette phase simultanément dans de nombreux pays et différents secteurs d'activité. Pour le moyen terme, c'est une excellente nouvelle. À plus court terme, vous comprenez bien que cela pénalise la rentabilité du groupe. Dans la phase 3, les contrats commencent à monter en puissance, les équipes commencent à produire et la rentabilité s'améliore progressivement. Cela tire sur le BFR, puisque nous avons des charges immédiates, avec des paiements de nos clients qui interviennent généralement entre 60 voire 90 jours. Dans les zones où nous avons déjà atteint la taille critique, ce que nous définissons à environ 100 millions d'euros pour une zone, cette phase de montée en charge est plus facile à gérer que dans les pays où nous n'avons pas encore cette taille critique, comme c'est le cas notamment en Italie, un pays qui croît très fortement en 2021 grâce au contrat remporté avec Telecom Italia en début d'exercice. La phase 4 correspond à la phase où nous atteignons la vitesse de croisière, c'est-à-dire que la rentabilité et la génération de cash atteignent des niveaux normatifs. Nous n'avons actuellement qu'un seul marché dans cette phase. Il s'agit du marché signé avec Fluvius pour le déploiement de leurs compteurs intelligents en Flandre. Lorsque la phase de déploiement arrive à son terme, comme c'est le cas pour le déploiement des compteurs intelligents en France, nous entamons une transition opérationnelle. Cette transition se fait soit vers une phase de maintenance récurrente, comme c'est le cas pour la fibre optique en France, soit vers de nouvelles activités émergentes, telles que la 5G ou le déploiement des bornes de recharge. Vous comprendrez à la vue de cette diapositive que ces montées en charge, dont la plupart commencent en même temps, exercent actuellement une pression sur nos marges. Alors en 2015, lorsque les déploiements du réseau FTTH et des compteurs intelligents ont débuté en France, les marges d'EBITDA ont temporairement diminué. Sur le long terme, l'effet de ces contrats a été très bénéfique sur notre profitabilité. Ils nous ont permis d'atteindre la taille critique en France et d'améliorer la densité de notre réseau. Nous nous attendons donc à ce qu'il en soit de même dans toutes nos zones géographiques. Afin décembre 2021, L'EBITDA ajusté s'élève à 82 millions d'euros, en baisse de 23% par rapport à 2020. Alors, outre la moindre absorption des coûts par un chiffre d'affaires en retrait en France et l'évolution du mix géographique au profit de pays qui n'ont pas atteint la taille critique, ce repli s'explique par différents facteurs. D'abord, les effets liés à la pandémie de Covid-19 et les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement pour 4 millions d'euros. Ensuite, l'évolution des activités et la transition opérationnelle nécessaire pour s'adapter et préparer le développement de nouvelles activités, en France notamment, pour 7 millions d'euros. Et enfin, les montées en charge, en cours ou en préparation, en particulier dans des activités nouvelles et des pays qui n'ont pas encore atteint la taille critique, pour 10 millions d'euros. En excluant ces éléments, la marge d'EBITDA s'établit à 11,8%, en repli limité de 120 points de base par rapport à l'année précédente. Les marges d'EBITDA par graphique reflètent ce que Giambeppi et moi vous avons expliqué précédemment. Ces marges sont en repli dans toutes les zones géographiques. Alors en France, cela s'explique par la maturité du marché des télécommunications, la transition opérationnelle en cours sur les marchés liés à l'énergie et les conséquences de la pandémie qui freinent les montées en puissance des nouvelles activités. Ailleurs, ce sont les montées en charge des nouveaux contrats qui impactent temporairement la rentabilité. L'exercice 2021 intègre 13 millions d'euros de charges opérationnelles non courantes, dont 7 correspondent aux dépenses engagées par le groupe pour lutter contre la violente campagne de dénigrement menée à son encontre. Le solde est lié à des opérations de restructuration visant à adapter l'organisation aux évolutions du marché, et en particulier en Allemagne et en France. Les dotations aux amortissements des relations clientèles s'élèvent à 14,7 millions d'euros en 2021, contre 13 un an plus tôt. Le résultat financier représente un produit de 4,2 millions d'euros lié à l'ajustement de la valeur des contreparties éventuelles, les earn-out, pour un montant de 6,4 millions d'euros. Après comptabilisation d'un produit d'impôt de 5,4 millions d'euros lié à l'activation des reports déficitaires, le résultat net part du groupe atteint 21,5 millions d'euros, contre 34,5 en 2020. Concernant notre bilan, au 31 décembre 2021, les capitaux propres du groupe s'élèvent à près de 200 millions d'euros. Le groupe affiche une position de trésorerie de près de 130 millions d'euros et la trésorerie nette de dette bancaire est de plus 52,3 millions d'euros à fin décembre 2021, le groupe ayant réduit sa dette bancaire de 23 millions d'euros au cours de l'exercice. Solution 30 a donc la particularité d'être une société de croissance ayant un bilan solide et faiblement endetté. C'est un véritable atout par rapport à nos clients et en particulier dans la situation macroéconomique actuelle. Nous avons la marge de manœuvre nécessaire pour exécuter notre stratégie de croissance et conduire de nouvelles opérations de croissance externe. Les montées en charge des contrats et le retour à des conditions de règlement plus normatives que durant l'exercice 2020 ont généré une augmentation du besoin en fonds de roulement de 13 millions d'euros, qui malgré tout demeure négatif à moins 25 millions d'euros. Je vous rappelle que le groupe a mis en place un programme d'affacturage sans recours, qui, compte tenu de la qualité de nos clients, est peu coûteux. En 2021, notre flux de trésorerie opérationnelle s'est élevé à près de 61 millions d'euros. Comme indiqué précédemment, le BFR a augmenté de 13,3 millions d'euros. Les investissements ont atteint 15 millions d'euros, soit 1,7% du chiffre d'affaires. Ce chiffre se situe dans la marge, dans la fourchette normative du groupe qui se situe généralement entre 1,5 et 2,5 points de chiffre d'affaires. Nous concentrons nos investissements, à notre habitude, sur l'infrastructure informatique et sur les équipements techniques de nos techniciens. La génération de free cash flow atteint pour l'exercice 2021 32,4 millions d'euros. Solution 30 continue donc de générer du cash malgré les montées en charge et les transitions en cours, ce qui illustre notre politique prudente en matière de gestion de nos ressources. À la fin de l'année, nous avons normalisé la situation avec les auditeurs et nous avons maintenu notre flexibilité financière. Notre structure financière est en adéquation avec les défis commerciaux que nous aurons à relever dans les mois à venir, alors que, comme John Bepi l'indiquait précédemment, une nouvelle phase de croissance s'ouvre pour Solution 30. Pour la période à venir, nous maintiendrons les fondamentaux de notre politique de financement. Le BFR des marchés bien établis est financé par de l'affacturage à faible coût grâce à la qualité de notre portefeuille client. La montée en puissance des nouveaux contrats est financée par notre trésorerie et nos opérations de M&A sont financées par de la dette à long terme. Alors, quelques mots concernant le rapport de notre réviseur d'entreprise, et que je remercie d'ailleurs PKF de nous accompagner aujourd'hui dans cette Assemblée Générale. Alors, vous le savez, EY avait refusé d'exprimer une opinion sur les comptes 2020 dans le contexte de crise réputationnelle que le groupe avait traversée. Cette année, PKF a confirmé que nos états financiers donnent une image fidèle de notre performance financière. Dans sa revue approfondie du bilan d'ouverture, c'est-à-dire le bilan au 1er janvier 2021, qui est rigoureusement le même que le bilan du 31 décembre 2020, PKF a confirmé l'intégrité de nos comptes. Comme prévu, et comme c'était déjà le cas au premier semestre, PKF a seulement émis une réserve purement technique qui porte sur la comparabilité des chiffres du compte de résultat avec ceux de 2020 et qui est due à l'absence d'opinion sur les comptes de 2020. Il s'agit là de la stricte application des normes d'audit international. Alors, PKF a audité le groupe et ses filiales dans toute l'Europe et Solution 30 a fait l'objet d'un examen minutieux qui était nécessaire pour confirmer une fois de plus l'intégrité de nos comptes. Cette situation sans précédent et la crise que nous avons traversée d'une violence inouïe ont montré la force de Solution 30. Une société présentant des faiblesses financières n'aurait pas survécu à une période aussi délicate. Nous sommes maintenant plus forts que jamais pour nous concentrer sur nos activités opérationnelles et sur l'exécution de notre stratégie de croissance.
Merci, Amaury. Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de croissance, Solution 30 poursuit son plan de transformation avec pour objectif de mettre en œuvre des procédures renforcées et harmonisées de gestion des risques, de conformité et de gouvernance. Au début du mois d'avril 2021, Solution 30 a annoncé l'accélération de son plan de transformation initié depuis 2019 et qui s'est déjà traduit par plusieurs actes concrets, dont notamment l'adoption des normes IFRS en 2019, le transfert des actions sur le marché réglementé ou encore le renforcement de sa gouvernance. Dans la continuité de ces actions, Solution 30 a engagé un plan de transformation dans le but de renforcer son cadre de gouvernance et d'appliquer les meilleures pratiques du secteur. Le conseil de surveillance de Solution 30 a nommé un partenaire externe, un cabinet de premier plan, spécialisé dans ce domaine, et avec son soutien, Solution 30 a lancé un projet visant à renforcer sa gouvernance, la gestion des risques et la conformité, le projet GRC. Des normes de conformité ont été définies au sein de l'ensemble de l'organisation pour encadrer toutes les relations d'affaires entre le groupe et ses partenaires. L'objectif est d'améliorer toutes les politiques et procédures au sein de Solution 30 et de mettre en œuvre des processus harmonisés dans l'ensemble du groupe. Le 1er mai dernier, Nathalie Duchesne, directrice gestion des risques et conformité du groupe, nous a rejoint. Elle dispose d'une très solide expérience en audit interne dans des groupes internationaux et en gestion des risques dans différents secteurs. Elle aura notamment pour mission de contrôler et évaluer à long terme la mise en œuvre des nouvelles politiques et procédures qui entrent en vigueur à fin juin. Ce projet permet à Solution 30 de consolider ses bases et ses fondamentaux pour mieux construire son futur. Cette diapositive présente les principaux livrables produits au cours de ce projet GRC. Vous verrez dès la semaine prochaine des changements dans les politiques disponibles sur notre site Internet. Tous les autres documents sont des directives internes, des procédures, des politiques et des manuels qui ont vocation à régir notre mode de fonctionnement, en particulier en ce qui concerne l'analyse des tiers, le contrôle interne et la gestion des risques. Entre autres choses, nous avons mis en place un nouvel outil informatique pour effectuer de multiples contrôles de conformité dans le cadre de l'évaluation et de l'analyse des tiers. Et nous effectuons des vérifications sur tous nos co-contractants. Nous disposons désormais d'une équipe dédiée à cette tâche et aux diligences réalisées sur les tiers. Depuis 2019, nous avons travaillé sur nos engagements en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise. En 2021, nous avons publié notre premier rapport extra-financier rédigé conformément aux normes du Global Reporting Initiative. Nous avons adhéré au Pacte mondial des Nations Unies, la plus importante initiative internationale d'engagement volontaire, autour des enjeux liés à la RSE et au développement durable. Nous avons également introduit des objectifs RSE dans le calcul de la rémunération des membres du directoire ainsi que des membres du comité exécutif. 25% de la rémunération variable des membres du directoire dépendent d'objectifs RSE. En 2022, ensuite, 25% de la rémunération du directoire et du comité exécutif dépendent de l'atteinte d'objectifs RSE et GRC. Nous avons identifié les objectifs de la durabilité de l'ONU sur lesquels Solution 30 a le plus d'impact, soit directement par la réalisation de sa mission, soit indirectement. Au sein de Solution 30, la croissance des revenus passe par la croissance des effectifs. Nous embauchons des personnes qui sont à l'aise avec la technologie, nous les formons et les aidons à développer leurs compétences. Nous nous engageons à la fois pour l'emploi et la formation des jeunes. C'est une partie intrinsèque de notre modèle d'entreprise. Ainsi, en 2021, 41% des personnes que nous avons recrutées avaient moins de 30 ans. Nous avons dispensé 23 heures de formation à chacun de nos employés. 67% de nos employés sont couverts par la certification ISO 45001, qui est relative à la santé et à la sécurité du travail. Et nous avons pour objectif de porter ce pourcentage à 100% en 2025. Au cours de l'exercice 2021, nous sommes attachés à renforcer nos fondamentaux et notre organisation, alors que nous étions en pleine transition sur nos marchés. Même si la croissance a ralenti ponctuellement avec un chiffre d'affaires de 222,7 millions au premier trimestre 2022, les marchés du groupe restent fondamentalement porteurs et notre groupe va renouer avec la croissance dès le deuxième semestre 2022, donc très bientôt. Dans les slides suivants, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes confiants dans nos perspectives de croissance à moyen et long terme. Notre enjeu principal pour les années à venir est d'atteindre la taille critique dans toutes nos zones géographiques. Nous définissons la taille critique par le passage de deux caps symboliques de chiffre d'affaires, celui de 100 millions d'euros et celui de 200 millions d'euros. Lorsqu'une zone géographique réalise moins de 100 millions d'euros de ses revenus, la marge d'EBITDA est généralement faible. Lorsqu'une zone géographique atteint le premier jalon de 100 millions d'euros, la marge d'EBITDA passe à deux chiffres. Et elle s'améliore pour atteindre finalement une marge normative autour de 15% lorsque le jalon de 200 millions d'euros est atteint. Nous pensons pouvoir atteindre cette taille critique dans toutes les zones géographiques où nous sommes implantés, car nos marchés disposent de moteurs de croissance très puissants dans ces géographies. Atteindre cette taille critique est donc essentiel pour construire un groupe solide et compétitif, alliant croissance et rentabilité. Sur le marché de la fibre, il faut différencier la construction du réseau, le raccordement des foyers à la fibre, c'est-à-dire les interventions à domicile, et ensuite le marché de la maintenance. En France et en Espagne, la fin de la construction du réseau est proche. Dans de nombreux autres pays, elle débute à peine. L'Europe connaît en effet des niveaux de maturité très différents. Le chiffre de 44% des foyers européens éligibles à la fibre masque de très grandes disparités entre les pays. En France et en Espagne, le taux de couverture du territoire dépasse les 70%. Mais en France, par exemple, seul un tiers des foyers sont abonnés à la fibre. Il reste encore plus de 27 millions de foyers à raccorder, au rythme de 3 à 4 millions de nouveaux raccordements chaque année. Et ça, à l'heure où on commence pourtant à parler du démantèlement du réseau cuivre, c'est-à-dire du réseau haut débit traditionnel. En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, plus de 80% des foyers n'ont pas accès au réseau très haut débit, ce qui est pénalisant à une époque où le télétravail, au moins partiel, est devenu une habitude. Sur ces marchés, tout est à faire et compte tenu de l'infrastructure existante, les coûts de déploiement sont particulièrement élevés pour les opérateurs qui profitent des plans de relance post-Covid pour lancer les travaux. Pour nous, cette activité démarre en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, et elle devrait démarrer en Allemagne au deuxième semestre de l'exercice. Notre expérience en France et les solides relations que nous avons établies au fil des années avec les opérateurs de télécommunications dans toute l'Europe, ainsi que notre capacité à mettre en place les ressources humaines nécessaires et qualifiées, soutiennent notre stratégie commerciale et nous permettent de capter des parts de marché importantes. Le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques est encore émergent et les retards constatés sur les chaînes d'approvisionnement retardent sa montée en puissance. Néanmoins, le marché de la mobilité électrique a connu des évolutions très positives en Europe. Les constructeurs automobiles ont considérablement enrichi leur offre de véhicules électriques et la fin des voitures thermiques, qui est confirmée pour 2035 en Europe, accélère cette transition. Il existe également des multiples incitations financières pour soutenir la transition vers la mobilité électrique. Au-delà des délais de livraison des véhicules qui sont particulièrement longs en raison des problèmes d'approvisionnement actuels, c'est la faiblesse du nombre de points de recharge qui freine aujourd'hui l'adoption plus rapide des véhicules électriques et il est urgent que le déploiement des bornes accélère. Du côté de Solution 30, nous nous concentrerons sur les chargeurs pour les particuliers et les entreprises où les volumes seront les plus importants et où notre savoir-faire est particulièrement pertinent. Le marché européen adressable est actuellement encore difficile à estimer, mais il vaut plusieurs dizaines de milliards pour les décennies à venir. Nous avons remporté plusieurs contrats sur ce marché, le dernier avec Mobilize Power Solutions, qui est la filiale de mobilité électrique de Renault. Et nous avons développé un programme marketing dédié pour gagner des parts de marché dans ce secteur. L'installation de panneaux solaires s'accélère en Europe. L'énergie solaire est appelée à jouer un rôle clé dans la transition énergétique et dans l'indépendance énergétique des pays européens. 90% des toits européens sont inutilisés et ce potentiel inexploité pourrait produire plus de 600 TWh d'électricité propre. Nous voyons un fort potentiel dans ce marché qui commence à prendre de l'ampleur. Notre filiale Sotranasa installe des panneaux solaires depuis 2006 dans le sud de la France et a acquis une expérience significative qui nous est utile aujourd'hui pour gérer cette technologie. En 2021, les revenus générés par les panneaux solaires représentaient 11 millions d'euros. Nous prévoyons que ce chiffre doublera en 2022 et continuera à croître de façon très soutenue. Au-delà des panneaux solaires et de la mobilité électrique, la croissance attendue, globalement en Europe, dans le domaine de la transition énergétique, est extrêmement forte. Le positionnement de Solution 30 auprès des particuliers, qui sont clés dans la mise en œuvre de la transition énergétique, est un atout sur lequel nous devons capitaliser. Ce positionnement est vecteur de croissance et nous réfléchissons à encore renforcer notre offre de services sur ce pilier de développement. Compte tenu du fort potentiel de nos marchés et des positions acquises, nous prévoyons un retour à la croissance au deuxième semestre 2022, tandis que le premier semestre restera en ligne avec le deuxième semestre 2021. Notre objectif pour l'année sera de stabiliser la marge d'EBITDA en France et de défendre au mieux nos marges ailleurs en Europe, tout en exécutant la mise en place des nouveaux contrats gagnés. Nous sommes également en négociation avec tous nos clients pour des augmentations de prix, qui doivent compenser les effets de l'inflation. Et comme l'illustre l'acquisition de Sirtel en Pologne et des actifs de Mono au Royaume-Uni, nous avons pour objectif de poursuivre notre stratégie d'acquisition ciblée pour consolider nos positions sur les marchés les plus porteurs et stratégiques. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Paul Côté, qui va vous parler de gouvernance.
Merci Jean Bépi. Mesdames et messieurs, chers actionnaires, bonjour. Comme c'est la première fois que j'interviens en Assemblée Générale, je vais prendre un peu de temps pour me présenter. Donc je suis Jean-Paul Côté, j'ai 68 ans aujourd'hui, pour être précis. Je suis membre du conseil de surveillance de Solution 30 depuis le mois de mai 2018. Et ce conseil de surveillance m'a proposé d'être son porte-parole, ce que j'ai accepté bien volontiers. Alors en quelques mots, j'ai un parcours dans la technologie d'ingénieur, j'ai un background d'ingénieur, je suis diplômé de l'école polytechnique, de Mines Paris Tech également, et de Télécom Paris. J'ai débuté ma carrière dans le nucléaire, puis ensuite je suis parti au Japon, exercé plusieurs postes. Et ensuite, j'ai rejoint France Télécom, qui est devenu Orange. Et au sein d'Orange, j'ai été directeur des opérations à Marseille, pour commencer, donc un métier très opérationnel, très proche des métiers de Solution 30. J'ai ensuite occupé différents postes de direction, dont la direction de Paris. J'étais également directeur des ventes. J'ai été directeur des réseaux France. C'est un poste important, puisque c'était le début du déploiement de la 4G en particulier. Et puis, j'étais au comité exécutif avec les quatre derniers présidents, directeurs généraux, dans différentes fonctions. J'ai commencé comme exécutif vice-président en charge du secrétariat général, du système d'information, de l'international, du marketing, de l'innovation et des contenus. Et en particulier, sous l'autorité de Thierry Breton, j'ai été en charge du plan de sauvegarde au moment où, en 2003, l'entreprise faisait face à une très grave crise financière. Bon, j'ai donc une assez bonne connaissance des métiers et des marchés de Solution 30 et je suis à ce titre président du comité stratégique du conseil de surveillance. Alors nous allons maintenant parler de la gouvernance de Solution 30 et des travaux que nous avons pu mener tout au long de l'exercice 2021 et de la rémunération et des évolutions à venir. Alors comme vous le savez, Solution 30 a adopté une organisation qui est duale avec un conseil de surveillance et un directoire. Solution 30 est une société de croissance, même si celle-ci a un peu ralenti, comme vous l'avez vu, à partir de la deuxième moitié de l'exercice 2021 et au début de 2022. La croissance attendue est forte, et dans ce contexte, il était important que la gouvernance soit proche du terrain avec des cycles de décisions qui soient courts et efficaces. Alors, cette organisation duale permet cela, elle permet à la société d'être agile et de rester en mesure d'adresser un certain nombre d'opportunités de marché qui s'offrent à elle, tout en maintenant une rigueur opérationnelle forte. C'est un point qui est important. Alors, je vous rappelle également que Solution 30 se réfère au code AFEP-MEDEF et ce conseil de surveillance est composé de 6 membres et peut-être bientôt 7 si la nomination de M. Kremer est approuvée lors de cette Assemblée générale. Nous sommes tous indépendants au sein de ce conseil de surveillance, comme l'a indiqué tout à l'heure Jean Bépi. Le conseil de surveillance s'appuie sur 3 comités, un comité stratégique que je préside, un comité des rémunérations et des nominations et un comité d'audit, bien sûr. Donc le directoire est composé, lui, de 5 membres et s'appuie sur un comité exécutif pour le groupe et des comités exécutifs par pays. Au sein du conseil de surveillance, nous avons donc des expertises qui sont complémentaires en matière d'expérience opérationnelle et de compétences. Nous avons indiqué vouloir renforcer les compétences du conseil en matière d'audit, de conformité, de gouvernance et de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et c'est ce que nous mettons en place, comme nous allons le voir dans les prochains slides. Le conseil de surveillance, au cours de l'exercice 2021, s'est réuni 17 fois, avec un taux d'assiduité très élevé, puisqu'il est de 91%, ce qui démontre que pendant la crise, notre engagement a été très fort auprès du groupe. Et l'ensemble des membres du conseil de surveillance ont parfaitement joué leur rôle en soutien du directoire. Comme je le disais à l'instant, nous avons la volonté de renforcer les compétences au sein du conseil de surveillance avec plusieurs thèmes. Au cours de cette assemblée générale, vous aurez à vous prononcer sur la ratification de la cooptation de Mme Pascale Mourvillier, que vous voyez à l'écran. Elle a rejoint le conseil de surveillance le 10 décembre dernier, en remplacement de M. Paul Raguin, qui à 80 ans avait choisi de se retirer. Alors, sous réserve que cette nomination soit ratifiée lors de cette assemblée générale, son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024. Donc Pascal Mourvillier, 62 ans, que vous voyez à l'écran, je vous laisse découvrir sa fiche, a démarré sa carrière dans l'audit chez Arthur Andersen. Elle s'est spécialisée dans les normes IFRS et à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Puis en tant que conseillère technique chez Acteo, en 2005, elle a rejoint le groupe Suez en tant que responsable du centre d'expertise IFRS et pendant 10 ans, elle a accompagné le groupe dans de nombreuses opérations structurantes. Depuis 2014, elle intervient en tant que conseiller indépendant en information financière au service de nombreuses ETI et de grandes entreprises. Donc Pascal Mourvillier apporte ainsi ses compétences en matière d'audit et de compatibilité. À ce titre, évidemment, elle a rejoint le comité d'audit. Maintenant, je vais vous dire quelques mots sur Thomas Kremer, sur la nomination duquel vous allez être amené à vous prononcer en tant que membre indépendant du Conseil de surveillance pour un mandat d'une durée de 4 ans. Alors, Thomas Kremer est docteur en droit. Il est diplômé de l'Université de Bonn en 1994. Au début de sa carrière, le docteur Thomas Kremer a rejoint le service juridique de ThyssenKrupp avant de devenir le directeur juridique en 2003 pour s'occuper notamment de la mise en place du programme de conformité du groupe et d'occuper le poste de Chief Compliance Officer à compter de 2007. C'est un point important. En 2009, il prend la direction du Centre d'expertise juridique et conformité du groupe. En 2010 et jusqu'à sa retraite en mars 2020, il rejoint Deutsche Telekom AG en tant que membre du comité de direction. Il est responsable de la confidentialité des données, des affaires juridiques, de la conformité, de l'audit interne et de la gestion des risques. En complément de ses fonctions opérationnelles, M. Thomas Kremer était membre de la commission gouvernementale allemande sur la gouvernance d'entreprise, Deutsche Corporate Governance Codec, DCGK. Il était également président de l'Association pour la sécurité des réseaux. Le docteur Thomas Kremer est aujourd'hui maître de conférence à l'Université de Bonn en droit des affaires et gouvernance d'entreprise. Thomas Kremer pourra donc apporter ses compétences en matière de conformité de gouvernance, d'audit interne et de gestion des risques, en plus de son expérience du marché allemand, qui est un point clé évidemment pour Solution 30, comme l'a expliqué Giambeppi Fortis, avec un opérateur de tout premier plan. Comme vous le voyez, l'approbation par l'Assemblée générale des nominations qui vous sont proposées de Pascal Mourvillier et Thomas Kremer permettrait de renforcer l'expérience du Conseil de surveillance et de renforcer également sa diversité, tout en maintenant une empreinte géographique européenne en cohérence avec la stratégie et les enjeux du groupe. Je vous laisse découvrir les chiffres. À partir de la fin de l'année 2020, Solution 30 a subi une attaque boursière d'une très grande violence, on peut même parler d'une violence inouïe, et pour structurer la supervision de la mission confiée aux experts indépendants qui ont réalisé un audit approfondi du groupe, mais aussi poursuivre et contrôler les conséquences de cette campagne de diffamation, le Conseil de surveillance a mis en place un comité ad hoc, composé de ses membres, et un comité d'examen conjoint, composé de membres du comité ad hoc et de 3 représentants de l'équipe de direction. Comme je l'ai dit, le Conseil de surveillance s'est réuni 17 fois sur l'année et le comité d'examen conjoint s'est réuni 23 fois, soit un total de 40 réunions contre seulement 9 en 2020, qui était la norme, une norme assez raisonnable. Ces réunions se sont tenues en complément des rendez-vous de travail nécessaires. Ce sont des réunions qui avaient lieu quasiment tous les jours pour répondre en particulier aux demandes des experts. Le comité des nominations et des rémunérations s'est réuni 3 fois au cours de l'exercice 2021 avec un taux d'assiduité de 100%. Le comité d'audit s'est réuni 6 fois au cours de l'exercice 2021 avec un taux d'assiduité de 92%. Le comité stratégique ne s'est pas réuni en 2021 parce que nous avions d'autres priorités, mais a repris ses travaux avec 2 réunions depuis le début de cette année. Ce slide décrit les principaux travaux du conseil de surveillance que vous pouvez retrouver de façon plus détaillée dans le rapport annuel disponible sur le site internet du groupe. Je vous laisse quelques instants cette slide pour que vous l'appréciez. Alors, parlons de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et du directoire. Elle a été adoptée par le Conseil de surveillance du 27 avril 2020, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, bien sûr. Cette politique a été approuvée par les actionnaires lors de l'Assemblée générale du 26 juin 2020. Alors, l'objectif de cette politique de rémunération est d'attirer et de fidéliser les talents qui permettront à Solution 30 d'atteindre ses objectifs. C'est aussi un moyen d'aligner les intérêts avec ceux de toutes les parties prenantes de l'entreprise, les salariés, les clients et bien sûr vous, les actionnaires. L'Assemblée générale détermine la rémunération des membres du Conseil de surveillance au titre de leur mandat au sein du Conseil de surveillance et des comités. La politique de rémunération des membres du directoire est proposée par le comité des nominations et des rémunérations, c'est son rôle, et déterminée par le conseil de surveillance. Le rapport sur la rémunération et la politique de rémunération sont soumis au vote consultatif de votre Assemblée générale. Ce sera l'objet des 9e et 10e résolutions. La 11e résolution porte sur l'allocation d'une rémunération extraordinaire supplémentaire destinée aux membres du Conseil de surveillance en compensation de l'engagement dont ces membres ont fait preuve dans la gestion de la crise boursière et en tenant compte du fait que leur rémunération aujourd'hui est bien en deçà des standards du marché. Je me permets de rappeler, à toutes fins utiles, le caractère infondé des allégations portées à l'encontre du groupe et qu'aucune anomalie n'a été détectée dans les comptes du groupe. Je vous ai donné précédemment le nombre de réunions tenues par le Conseil et le taux d'engagement de ses membres. En conformité avec les principes de rémunération du groupe, la structure de rémunération des membres du directoire prévoit une rémunération fixe et une rémunération annuelle variable qui, en 2021, était plafonnée à 50% de la rémunération fixe et une part d'intéressement à long terme qui prend la forme d'un plan pluriannuel d'allocation de stock option. Chaque nouveau plan fait l'objet d'un vote de votre Assemblée générale. Le rapport sur la rémunération est disponible dans le rapport annuel du groupe, bien sûr. Vous avez pu constater qu'il a été enrichi par rapport à l'année dernière, en particulier sur l'atteinte des objectifs, avec plus de détails. Au titre de l'exercice 2021, le comité des nominations et des rémunérations a constaté l'atteinte partielle des objectifs quantitatifs, notamment des objectifs de rentabilité opérationnelle, l'EBITDA ajusté, et du free cash flow. Les rémunérations variables annuelles ont été attribuées à hauteur de 73%. L'allocation du plan d'intéressement pluriannuel approuvé par le Conseil de surveillance du 24 septembre 2019 et lors de votre Assemblée générale le 26 juin 2020 a été réalisée en une fois sur la base des objectifs définis pour les années 19, 20 et 21. Les critères de performance étaient les suivants. Le chiffre d'affaires, bien sûr, la marge d'EBITDA, le free cash flow et la performance de l'action. Ce dernier critère n'est bien évidemment pas atteint pour l'exercice 2020 et 2021, puisque l'action Solution 30 sous-performe ses comparables pour les raisons que vous connaissez. Le critère de marge d'EBITDA n'est pas atteint pour 2021 et le critère de cash flow n'est que partiellement atteint pour 2021. Alors, des options ont été attribuées, 3 351 688 pour être précis, donnant droit à la souscription d'autant d'actions au prix de 8,99 €. L'Assemblée générale avait autorisé ce plan sur la base d'un nombre maximum de 6,5 millions d'actions. À date, le cours de bourse est inférieur au prix d'exercice de ces options. Les conditions d'exercice des options ne sont pas réunies. Vous aurez donc compris que ces options n'auront de valeur que si le prix de l'action dépasse le seuil de 9 € avant la fin de l'année prochaine. C'est un point important que je souligne. Donc le critère important, c'est que l'action dépasse 9 € avant la fin de l'année 2023. La 8e résolution porte sur une évolution de la politique de rémunération, en particulier la mise en cohérence de la rémunération des membres du Conseil de surveillance avec celle qu'on a constatée dans les sociétés comparables à Solution 30. Les conclusions d'une étude comparative sont disponibles dans les documents, qui sont mis à votre disposition préalablement à l'Assemblée générale. Alors, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et à sa charte, le Conseil de surveillance examine chaque année son fonctionnement et celui de ses comités. Dans ce cadre, nous avons diligenté la réalisation d'une étude qui visait à évaluer la rémunération des membres du Conseil de surveillance par rapport aux standards du marché, de façon à pouvoir vous éclairer. Il ressort de cette étude que la rémunération actuelle des membres du Conseil de surveillance est très sensiblement en deçà de celle constatée dans les conseils d'entreprise qui sont comparables. La politique de rémunération révisée a 3 objectifs, même 4 on pourrait dire. La première, c'est d'attirer de nouvelles compétences pour enrichir les missions et les travaux du Conseil de surveillance. Le Conseil de surveillance souhaite notamment poursuivre le renforcement de son expertise en matière de conformité, de gestion des risques ou de responsabilité de sociétale et s'ouvrir aussi davantage à des membres de diverses nationalités, bénéficiant d'expériences internationales sur des marchés où Solution 30 dispose d'un fort potentiel de développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième objectif, c'est de tenir compte des responsabilités de chacun avec une rémunération différenciée entre les présidents et les membres du conseil de surveillance et de ses comités. Le troisième objectif, c'est de valoriser l'assiduité des membres aux réunions du conseil de surveillance et à ses comités en proposant une structure de rémunération basée sur la participation effective aux réunions. Et puis de fixer, c'est le quatrième point, une enveloppe maximale de rémunération de 407 000 euros. La partie relative à la rémunération des membres du directoire est inchangée. Dans son application pour 2022, nous envisageons de plafonner la part variable à 60% de la rémunération fixe en cas de dépassement des objectifs fixés et pour compenser le dépassement des objectifs dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Alors, ces objectifs sont définis en début d'exercice. Ils portent sur le chiffre d'affaires, bien sûr, l'EBITDA ajusté, le free cash flow exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires et, comme l'a dit Jean Bépi, des indicateurs RSE et des indicateurs liés à la mise en œuvre du plan GRC du groupe. Voilà pour l'essentiel. Je vous remercie de votre attention. Et je crois que maintenant, il est temps d'ouvrir la session de questions et de réponses. Et pour ça, je passe la parole à Jean Bépi. Encore une fois, merci de votre attention.
Merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul. Avant d'ouvrir la session de questions-réponses, je vous rappelle ici notre calendrier de communication financière pour cet exercice 2022. Sachez que nous reprenons un programme de roadshow plus soutenu à destination des actionnaires institutionnels. Ceci a pour objectif de présenter le modèle économique et les perspectives du groupe à des investisseurs de long terme, alors que le titre est aujourd'hui encore trop soumis aux arbitrages à court terme, ce qui explique son extrême volatilité. Dans le cadre de ce programme, nous organiserons en fin d'année ou début 2023 une journée investisseur afin de présenter plus en détail le plan de développement de Solution 30. Alors, nous avons reçu des questions écrites et après, donc si vous en êtes d'accord, on va d'abord traiter celles-là et ensuite on va voir s'il y a des questions dans la salle. Donc, nous avons reçu 7 questions écrites de la part d'actionnaires. Nous avons apporté la plupart des réponses au cours de cette présentation. Jean-Paul Côté a notamment répondu aux questions qui portaient sur la rémunération du conseil de surveillance. Amaury Boileau a répondu aux questions qui portaient sur les dépenses non récurrentes liées aux attaques. Et à ce sujet, un actionnaire nous demande pourquoi nous avons dépensé autant d'argent pour répondre à une lettre anonyme. Alors, ces dépenses étaient nécessaires pour balayer les allégations portées dans le rapport anonyme. C'était également pour porter plainte et nous défendre face aux attaques qui, bien qu'injustifiées, ont causé de nombreux dégâts. Nos parties prenantes, dont nos actionnaires, nous demandaient de conduire des investigations pour des éventuels problèmes au sein du groupe et pour les rassurer, ce qui rejoint une autre question d'un actionnaire, nous reprochant de ne pas avoir davantage rassuré. Or, il nous semble que publier les résultats d'une investigation complète et indépendante qui a duré des dizaines de milliers d'heures et publier un rapport d'audit ne faisant état d'aucune anomalie est de nature à rassurer sur l'intégrité du groupe. Concernant la question reçue au sujet des coûts des travaux lancés avec Rothschild, dans le cadre d'un processus de recherche d'actionnaires de référence, Rothschild est rémunéré exclusivement au succès et donc il ne sera payé qu'en cas d'entrée d'un actionnaire de référence au capital. Donc aucune dépense n'a été incourue jusqu'à maintenant avec Rothschild. Un actionnaire nous demande pourquoi avez-vous privilégié le développement du chiffre d'affaires au détriment de la marge de l'entreprise ? Alors, nous avons expliqué, et surtout Amaury a développé le sujet des marges au long de sa présentation. Et le momentum actuel constitue une opportunité unique pour Solution 30 de renforcer ses positions. Il nous semble donc essentiel de prioriser la croissance pour sécuriser les marges et les développements futurs du groupe. Nous avons ensuite des questions sur l'évolution du cours de bourse, mais il ne nous appartient pas de commenter notre cours de bourse, mais croyez bien que cette situation n'est satisfaisante pour personne, ni pour moi en particulier. Nous avons réenclenché un programme de roadshow plus soutenu sur la base des résultats annuels et du rapport d'audit qui a été émis, et restaurer une confiance que nous avons mis 10 ans à construire avec les marchés est un travail de longue haleine, auquel nous nous attelons car nous sommes convaincus que les atouts de Solution 30 sont intacts, que ce soit en termes de capacité à générer une croissance forte et rentable ou à maintenir une structure financière extrêmement saine. Concernant la rumeur d'une entrée de Bain Capital à notre capital, nous n'avons pas d'offre ferme. Si nous avions une offre, nous communiquerions sur le sujet en respectant bien entendu la réglementation applicable. Concernant la mise en œuvre d'un programme de rachat, nous maintenons le même cap. Notre génération de trésorerie est le moyen de financer notre croissance. Amaury vous a expliqué notre politique de financement. Dans le contexte actuel, si nous avions contracté de la dette pour financer notre croissance, nous serions, comme certains de nos concurrents, dans une situation extrêmement défavorable. Nous devons donc préserver notre trésorerie pour financer notre entreprise et créer de la valeur pour nos actionnaires. Je crois que j'en ai fini avec les questions écrites. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur. Non, ça va ? S'il n'y a aucune question, je pense que nous devons procéder avec les votes. Je vous laisse la parole, Pierre-Alexandre.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Jean Bepi. Donc, avant de commencer le vote, je vais vous rappeler certaines formalités. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il n'était pas possible d'assister à l'Assemblée générale. Tous les actionnaires ont été invités à voter soit par courrier à l'aide d'un formulaire papier pour voter par correspondance ou par procuration, qui a été envoyé à chaque actionnaire au nominatif. Et les actionnaires ou porteurs ont pu obtenir auprès de leur établissement teneur de compte. Il était également possible de voter par Internet via la plateforme de Vote Access qui était ouverte du 17 mai 2022 à 9h du matin jusqu'au 13 juin à 15h de Luxembourg et de Paris. Les actionnaires qui ont voté par correspondance et par procuration via le formulaire de papier qui leur ont été remis avait l'obligation de renvoyer le formulaire de vote au plus tard pour le 13 juin 2022 à minuit, en renvoyant les formulaires de procuration et de vote dûment complétés et signés. Seuls les actionnaires détenant des actions à la date d'enregistrement, donc le 2 juin 2022, avaient le droit de participer et de voter à la présente Assemblée générale. Les actionnaires qui sont présents physiquement et que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, chacun a reçu un formulaire de vote papier, où est indiqué son nom, son prénom, le cas échéant si c'est une personne morale, le nom de cette personne morale et l'identité du représentant de cette personne morale. Les personnes à l'accueil ont indiqué le nombre de votes d'action sur lesquels vous avez le droit de vote au cours de l'Assemblée générale et le formulaire tient compte donc de ce nombre de votes. Pardon. Ce qui concerne les formalités et la manière de remplir le formulaire de papier, je tiens à attirer votre attention qu'il faut le faire très correctement. Vous avez donc des cases. S'il vous plaît, remplissez la case précisément. Ne faites pas des croix sur deux cases différentes. Vous avez la possibilité soit de faire pour, de voter pour, contre ou de vous abstenir. Si vous ne remplissez pas de case, vous exprimez un vote en blanc pour la résolution spécifique. Les votes exprimés ne comprennent pas les votes attachés aux actions pour lesquelles les actionnaires n'ont pas pris part au vote ou se sont abstenus ou ont émis un vote blanc ou nul. En d'autres termes, une telle situation ne sera pas comptabilisée dans le scrutin et ne sera donc pas inclue dans la majorité requise. Je vous demande de prêter une attention toute particulière à ces formalités car c'est la seule manière pour la société de compter votre vote au cours du dépouillement de vote qui aura lieu juste après l'ouverture du scrutin. La société ne peut pas être en mesure d'interpréter un vote, d'un vote qui aura été mis sur un formulaire qui ne sera pas clair. Donc, Il faudrait bien noter qu'une fois que le processus de vote pour chaque résolution sera finalisé, nous allons suspendre brièvement l'Assemblée générale pour procéder aux opérations de comptage. Je vous demande donc de ne pas quitter la salle, de ne pas aller trop loin. Vous pourrez prendre un café juste à côté et vous entretenir avec la directoire. Et pendant ce temps-là, nous ferons les calculs. Je vous rappelle que c'est une assemblée générale annuelle, donc il n'y a pas de quorum de présence qui est requis, et que toutes les résolutions pour les points 2 à 11 de l'ordre du jour seront adoptées à la majorité simple des voix qui auront été valablement exprimées. Chaque action donne droit à une voix. Nous allons donc maintenant procéder au vote. Donc la première résolution était la suivante. Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du directoire, du rapport du réviseur d'entreprise agréé et des observations du conseil de surveillance, l'Assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021 dans leur intégrité, établissant un bénéfice net de 13 542 102,39 euros. Je vous prie donc de bien vouloir voter sur vos formulaires de vote. Voilà, je pense que c'est fait. Passons à la deuxième résolution. La deuxième résolution, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du directoire, du rapport du réviseur d'entreprise agréé, des observations du conseil de surveillance, l'Assemblée générale approuve les comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021 dans leur intégralité, établissant un bénéfice net consolidé de 22 491 237 euros. Je vous prie de bien vouloir voter sur vos formulaires de vote. Voilà, donc le vote est clos. La troisième résolution. Troisième résolution, l'Assemblée générale annuelle constate un bénéfice net donc de 13 542 102 euros et 39 cents, répartis de la manière suivante. Bénéfice de l'exercice 13 542 102 et 39 cents. Résultat reporté 86 192 106 et 10 cents. Autre réserve disponible, il n'y en a pas. Réserve distribuable disponible s'élève à 99 734 208 et 49 cents. Le résultat à affecter et à distribuer 13 542 102 et 39 cents. Il n'y a pas d'affectation à la réserve pour les actions de trésorerie, donc autodétenues. Pas d'affectation non plus à la réserve légale. Il n'y a pas de distribution d'un dividende. Les bénéfices reportés sont donc de 13 542 102 102 euros et 39 cents, avec une réserve distribuable disponible après distribution et affectation du résultat de 99 734 208 et 49 cents. Rémunération fixe de base des membres du conseil de surveillance de 121 726 euros. Je vous prie de bien vouloir voter sur vos formulaires de vote. Voilà, le vote est clos. Passons à la quatrième résolution. Quatrième résolution, l'Assemblée générale décide d'accorder des charges aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos au 31 décembre 2021. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Passons à la cinquième résolution. Cinquième résolution, l'Assemblée générale décide de ratifier la cooptation de Mme Pascale Mourvillier en tant que nouveau membre du conseil de surveillance de la société suite au départ à la retraite de M. Paul Raguin. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2024. Le vote est ouvert. Voilà, le vote est clos. Passons à la sixième résolution. Sixième résolution, l'Assemblée générale décide de nommer M. Thomas Crémer en tant que nouveau membre du conseil de surveillance de la société pour une période de 4 années qui prendra fin à la date de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2025. Le vote est ouvert. Voilà, le vote est clos. Passons à la 7e résolution. 7e résolution, faisant suite à l'expiration. Ayant son siège social au 37 rue d'Anvers à 1130 Luxembourg, immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sur le numéro d'identification B222-994, en qualité de réviseur d'entreprise agréé de la société jusqu'à l'Assemblée générale annuelle statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La 8e résolution. Par suite d'une modification matérielle de la politique de rémunération, telle qu'approuvée par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 26 juin 2020, l'Assemblée générale décide par un vote consultatif d'approuver la politique de rémunération révisée de la société pour une période de 4 ans en conformité avec la loi sur le droit des actionnaires. Le vote est ouvert. Voilà, le vote est clos. Passons à la 9e résolution. L'Assemblée générale décide par un vote consultatif d'approuver le rapport de rémunération de la société pour l'exercice 2021. Le vote est ouvert. Voilà, le vote est clos. Passons à la 10e. 10e résolution. Sur la base de la 3e résolution allouant un montant total de rémunération pour le conseil de surveillance au titre de l'exercice 2021 de l'ordre de 121 726 euros, l'Assemblée générale approuve les tantièmes suivants par membre de conseil de surveillance en relation avec l'exercice 2021. Monsieur Alexandre Sator, en tant que président du conseil de surveillance, aura 40 000 euros. Madame Caroline Tissot, en tant que membre du conseil de surveillance, 15 000 euros. Monsieur Francesco Serafini, en tant que membre du conseil de surveillance, 20 000 euros. Monsieur Paul Raguin, en tant que membre du conseil de surveillance, 14 178 euros. Et monsieur Jean-Paul Côté, en tant que membre du conseil de surveillance, 16 000 euros. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Passons à la résolution suivante, la 11e. Donc la 11e résolution. Sur base de la 3e résolution allouant un montant total de rémunération pour le conseil de surveillance au titre de l'exercice 2021, comme je l'ai indiqué plus tôt, de 121 726 euros, l'Assemblée générale approuve une rémunération extraordinaire supplémentaire aux membres du conseil de surveillance pour un montant total de 250 000 euros en raison de la charge de travail supplémentaire exceptionnelle qui a été effectuée en raison et dans le contexte des attaques boursières subies par la société. Le vote est ouvert. Voilà, le vote est clos. Et ceci clôt donc les scrutins sur les résolutions. Donc, je vous remercie. Je propose à Monsieur le Président de suspendre provisoirement la séance de manière à nous permettre de faire les calculs. Et je vous invite donc à aller prendre un café. On va revenir vers vous très rapidement. Merci.
Without it, we are nothing.
COVID party.
Chers actionnaires, mesdames, messieurs, le processus de calcul est maintenant terminé. Je vous invite donc à vous rasseoir et l'Assemblée générale est réouverte et je vais vous annoncer les votes, les résultats des scrutins. Donc pour la première résolution qui concernait l'approbation des comptes annuels de la société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021, il y a 39 624 852 voix pour, 772 871 contre, donc la résolution est adoptée à 97,50%. La deuxième résolution qui concernait l'approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021, il y a 39 627 208 actions pour, 772 849 contre. La résolution est donc adoptée à 97,50%. La résolution 3, qui concernait l'affectation des résultats, il y a 40 188 256 voix pour, 324 261 voix contre. La résolution est donc adoptée à 98,88%. La résolution 4, concernant la décharge aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance, il y a 38 743 933 voix pour, 1 697 779 contre. La résolution est adoptée à 95,33%. La cinquième résolution concernant la ratification de Mme Mourvillier en tant que nouveau membre du conseil de surveillance, il y a 40 105 599 voix pour, 408 637 voix contre. La résolution est donc adoptée à 98,68%. La résolution 6 pour la nomination de M. Thomas Kremer en tant que nouveau membre du Conseil de surveillance, 37 329 296 pour, 916 456 contre. La résolution est donc adoptée à 91,85%. La résolution 7 concernant l'approbation du renouvellement du mandat de PKF Audit et Conseil SARL comme réviseur d'entreprise agréé pour l'exercice qui sera clôturé au 31 décembre 2022, 40 271 149 pour, 312 602 contre. La résolution est donc adoptée à 99,08%. La résolution 8, qui visait à soumettre la politique de rémunération pour avis consultatif, il y a 25 768 880 voix pour, 12 625 955 voix contre. La résolution est donc adoptée à 63,40%. La résolution 9 visant la soumission de la politique de rémunération révisée pour avis consultatif, il y a 24 138 757 actions pour, 14 294 096 contre. La résolution est adoptée à 59%. La résolution 10 concernant la soumission du rapport de rémunération pour avis consultatif, il y a 38 562 446 pour, 1 945 438 contre. La résolution est donc adoptée à 94,88%. Et enfin, la 11e résolution concernant l'approbation d'une rémunération extraordinaire aux membres du Conseil de surveillance en raison de la charge de travail supplémentaire exceptionnelle due en raison des attaques boursières, Il y a 38 049 818 voix pour, 2 493 951 contre. La résolution est donc adoptée à une majorité de 93,62%. Voici donc le scrutin. Monsieur le Président, je vous laisse la parole pour clôturer la séance.
Merci Pierre-Alexandre. Donc voilà, ceci clôture cette Assemblée générale. Je demande à l'Assemblée générale de nous dispenser de la lecture du procès-verbal de cette réunion. Je vous remercie vivement pour l'honneur que vous nous avez fait ce matin en participant à votre Assemblée générale, en nous faisant confiance. Et cette Assemblée générale est maintenant terminée et donc close à, quelle heure est-il, Pierre-Alexandre ?
Midi 10,
très bien. La société, conformément à la législation applicable, publiera rapidement, après cette Assemblée générale, les résultats du vote. Pour conclure cette Assemblée générale, je tiens à remercier chaleureusement nos actionnaires qui sont restés fidèles dans la période difficile que nous avons traversée et qui ont apporté leur soutien au groupe, à ses collaborateurs et à ses clients également. Nous mesurons tous combien la situation actuelle est difficile pour nos actionnaires et je vous assure que nous faisons tout notre possible pour que le marché valorise de nouveau le potentiel de Solution 30 et récompense aussi votre patience. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.